Donc, pendant que là, je dépose le point, eh bien, les micros sont coupés. Vous coupez vos micros. Une fois que le point a été exposé, je vous demanderai des interventions éventuelles. Et lorsque vous voudrez intervenir, vous allez cliquer sur le petit rond en haut, la petite bulle, où il y a qui est un chat. Et donc, votre nom va apparaître et on saura qui veut intervenir. Et à partir de là, on lui donnera la parole, la discussion. On a également des questions à prendre, donc des votes à passer. On n'en aura que trois. Il y a beaucoup d'informations, de communication. Mais pour les votes, c'est pareil. Je vais demander, comme à l'habitude, qui c'est qui est contre, qui s'abstient. Et en chatant, c'est pareil. On pourra compter les contre et les abstentions. Vous êtes d'accord là-dessus?
Roland, juste une chose, je vais couper tous les micros parce qu'il y a encore un peu de bruit.
Oui, ça me va, moi.
OK.
Donc, il n'y a plus que moi et Philippe qui avons le son. Donc, je pense que tout le monde a bien compris. Encore une fois, merci de votre présence. C'est un peu une expérience inédite. Et malheureusement, on y est contraint. Mais néanmoins, la vie continue et notamment dans ces temps un peu perturbés, tout manqué, eh bien la commune de Commune a sans doute un grand rôle à jouer. J'ai un peu une pensée particulière pour celles et ceux d'entre vous qui croyaient en avoir terminé avec leur engagement électoral et qui avaient décidé eh bien d'arrêter. Malheureusement, les faits eh bien en ont fait autre chose. Et aujourd'hui, vous êtes comme tout le monde. Premier plan au niveau de votre commune et je vous remercie de votre engagement. Le fait du hasard veut aussi que nous avions programmé une réunion pour la mise en place de la nouvelle gouvernance, donc l'élection du président et des vice-présidents, et nous l'avions programmé à Hémin pour le samedi 18 avril, c'est-à-dire demain. Donc vous voyez, à un jour près, on est dans l'agenda. Malheureusement, compte tenu des circonstances, ce n'est pas pour le même ordre du jour. Pourquoi? Parce que, entre-temps, un monstre microscopique, eh bien, a envahi la planète et a déstabilisé notre quotidien, nos certitudes, mais surtout menace nos vies et le système économique mondial. Du reste, j'espère que votre santé physique et morale, et je sais qu'il y a parmi nous quelques collègues qui ont connu un peu ce petit monstre, et qui en souffrent encore, eh bien que cette santé et ce moral, eh bien, sont au beau fixe. Je pense surtout donc à ceux qui ont été touchés et que vous puissiez, dans ces temps tourmentés, eh bien, de crise sanitaire, eh bien, intervenir et être mobilisés au niveau de vos habitants. Je voudrais féliciter l'ensemble des maires, de vous, de votre engagement, votre prévenance pour vos habitants et particulièrement ceux les plus vulnérables. J'avais fait un petit sondage auprès de vous pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été mis en place au fur et à mesure des événements dans vos communes. Et j'ai été vraiment, vraiment très sensible à cette mobilisation, cette solidarité, cette empathie envers ceux qui souffrent, mais aussi envers ceux qui essayent de lutter contre cette souffrance, c'est-à-dire les soignants, les forces de sécurité. Et vous n'avez ni ménagé vos efforts, ni votre imagination. Dans le sondage, je me rappelle surtout, par exemple, des paniers fruits et légumes qui ont été distribués aux anciens à Walscheid. Bien sûr, des portages de repas, de courses à Hellerin, à Diane-Capelle, à Vasperwiller, à Weckerswiller, et bien sûr, j'en oublie. Et j'ai surtout relevé, je ne sais pas s'il est là, le maire de Bedborne, eh bien, l'idée du maire, peut-être d'autres l'ont imité, de collecter des bretelles d'anciens soutiens-gorge de dames pour la confection des visières. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'imagination, de mobilisation. Félicitations à tous. Voilà pour cette petite introduction pour ce conseil communautaire en télétravail. Donc, je vous dis bonjour chez vous, puisque vous êtes tous chez vous, excepté moi, puisque symboliquement, j'ai souhaité mener ce conseil à mon bureau pour montrer que la collectivité est mobilisée et plus que jamais auprès de vos communes, auprès de vos habitants. Mais surtout dans les jours à venir auprès de nos activités, de nos entreprises. Donc, lors de 2 jours, vous l'avez reçu avec les pièces complémentaires. Il y a d'abord toute une série d'informations, notamment sur les modalités de fonctionnement du pouvoir exécutif, donc de la collectivité, qui, bien sûr, suite aux ordonnances, et notamment à l'ordonnance du 1er avril, eh bien, fait que l'exécutif a un peu quelques prérogatives supplémentaires pour que la machine puisse tourner et notamment permettre des décisions rapides durant la période d'état d'urgence sanitaire. Chaque président d'exécutif local, que ce soit le maire, le président de l'établissement public, donc d'une COMCOM ou d'un département ou d'un syndicat, eh bien, se voit confier automatiquement l'intégralité des pouvoirs qui auparavant pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante. Et je pourrais aussi, l'ordonnance me permet de déléguer toute une partie de ces autorisations au vice-président ou par exemple au directeur général. Des mesures de souplesse budgétaire supplémentaires sont instaurées et dans les limites bien sûr fixées soit par l'assemblée délibérante dans le cadre de notre budget, soit par 15% des dépenses réellement figurant au budget. Vous savez que nous et vous avez maintenant la possibilité de ne voter vos budgets là où ce n'est pas fait jusqu'au 31 juillet, idem pour les comptes administratifs. Donc, s'agissant des dispositions pour la gestion du personnel de l'intercommunalité, nous avons 72 agents, une personne est en maternité, l'autre est en accident de travail. Donc, parmi ces 70 agents, 46 ont reçu une autorisation de travail à distance. On appelle ça du télétravail, mais il n'est pas organisé en tant que... c'est-à-dire, c'est 2/3 du personnel est actuellement en travail à domicile. À noter que parmi ces 46 personnes, eh bien 20 ont des enfants de moins de 16 ans à domicile. Donc, certains d'entre vous savent ce que c'est. Ou pour ceux qui ont des petits-enfants, eh bien, je pense que vos enfants vous en parlent souvent. 10 agents sont en ASA, c'est-à-dire en autorisation spéciale d'absence, qui ne télétravaillent donc pas. 7 agents contractuels parmi eux, et donc qui sont en arrêt maladie, ce sont les textes qui veulent ça, avec retour d'indemnité de la CPAM. Un agent est en activité quotidienne, comme auparavant, normal, c'est le service de portage de repas. Mais il y en a 4 autres qui sont en service presque normal, en tout cas à travers les heures qu'ils donnent. C'est le service informatique qui est présent à tous les moments en travail à distance, mais c'est un peu leur façon de travailler en général. 6 agents des stations d'épuration sont en activité alternée, donc c'est 1 jour sur 2 ou 3. 5 agents du patrimoine, c'est-à-dire l'entretien de nos bâtiments, de nos pistes cyclables, etc., nos espaces, eh bien, étaient en astreinte, mais depuis ce mardi, eh bien, recommencent progressivement à intervenir sur notamment l'entretien des pistes et des abords de nos bâtiments. 2 agents des réseaux d'assainissement, travaillent pareil en alternance. Je précise que, mais ça c'est la loi, les salaires des agents, quelle que soit leur situation, qu'ils soient en travail normal, en télétravail ou en autorisation d'absence, eh bien, sont maintenus dans leur intégralité, quelle que soit la position administrative pendant cette durée de confinement, donc salaire et régime indemnitaire. Pour la partie de l'organisation du temps de travail, nous avons tout de même, et on a un peu précédé les ordonnances, réfléchi sur la gestion de ce personnel, notamment la gestion des RTT et des absences pendant cette durée un peu controversée. Et nous avons donc décidé de suspendre pour les agents en télétravail l'attribution de RTT à compter du 14 avril jusqu'au retour de l'agent en travail présentiel. Les personnes qui sont en autorisation spéciale d'absence, eux, ne bénéficient pas de RTT puisque le RTT, eh bien, lui, il est donné lorsque vous êtes effectivement au travail. les agents qui continuent à se rendre physiquement au travail, soit en alternance ou en permanence, eh bien, eux, ils bénéficieront donc de RTT les jours travaillés. Que les agents doivent également poser des congés annuels à compter donc du mois d'avril à minima, en fonction de l'organisation, bien sûr, du service, et nous leur imposons 2 jours et demi par mois pour les personnes en autorisation spéciale d'absence, 1 jour par mois pour les agents en travail à distance et 1 demi-jour par mois pour les agents en présentiel. Les textes sont sortis avant-hier et vont bien au-delà, mais bon, c'est déjà suffisant. C'est aussi voilà, l'indication que après cette période de confinement, il faudra sans doute être mobilisé, être présent pour redresser et continuer notre travail au quotidien. Est-ce que là-dessus, sur ces 2 informations concernant la gestion du personnel, est-ce qu'il y a des remarques, des interventions souhaitées? Je vous répète, pour le faire, vous cochez la case, la petite bulle chat. Et on vous donnera
Juste une
du...
chose, Roland,
Oui?
je vais projeter la note de synthèse, comme ça tout le monde pourra suivre. Alors
Oui.
j'informe tout le monde que ça va bouleverser un peu votre écran. Encore une fois, le plus logique, c'est dans la fenêtre qui s'affiche, où c'est marqué afficher tout le monde, vous cliquez dessus et vous affichez l'intervenant, vous n'aurez plus que celui qui parle, et ça sera beaucoup plus simple à gérer et à visualiser. Donc, je vais afficher mon écran et vous allez avoir la note de synthèse qui apparaît. Voilà, ça doit être bon.
Oui, pendant ce temps-là, je rajoute quand même, je précise un peu les services qui effectivement travaillent. L'ai dit, le service de portage de repas aux personnes âgées, il est bien entendu bien plus mobilisé qu'auparavant. C'est 50aine de repas par jour. Nous avons les stations, dans des conditions bien sûr de sécurité pour l'agent. Et les repas sont toujours aujourd'hui assurés par les HAD de Sarrebourg. Les stations d'épuration et le système d'assainissement font partie des activités essentielles au niveau sanitaire, et donc un agent est présent quotidiennement en station d'épuration et une rotation est assurée avec 2 équipes de 3 agents. Toujours, on ne voit plus maintenant, Philippe.
Normalement si, mais
Ah.
bon, je peux enlever la
Non, c'est
présentation, hein,
bon, là,
sinon,
c'est
mais
bon, c'est parfait. Après, nous avons aussi la surveillance des réseaux, comme je l'ai dit, et puis les traitements de l'Ixivia, de l'ancienne station de déchets, stockage de déchets de Hesse, et bien sûr maintenu, le PETR continue à nous apporter les Ixivia. Les consignes de protection de sécurité ont été rappelées aux agents et maintenues, et je félicite les chefs d'équipe et les chefs de pôle pour leur vigilance par rapport à cela. Je rappelle juste que je précise, cela n'a pas été dit, que nous n'avons aucun de nos agents qui n'ait à ce jour été révélé positif. Bien entendu, le service comptable y travaille en télé à distance, mais il travaille puisque le paiement des factures et des salaires est nécessaire. Et nous avons donné pour consigne, eh bien, de payer régulièrement et rapidement les factures des entreprises qui sont en cours, pour ne pas abandonner les petites entreprises pour leur apporter un peu de trésorerie. À savoir que pour l'instant, la trésorerie de Sarrebourg suit relativement bien ses mandatements. Ensuite, nous avons également, et c'est assez rare, maintenu le service d'instruction des permis de construire. D'ailleurs, j'ai vu que le gouvernement a demandé à ce que cette opération puisse se remettre en place pour que derrière, il y ait des permis d'accorder, etc. Nous n'avons jamais arrêté. Parce que le télétravail et notamment, comment dire, il n'y avait que Sarrebourg, la ville de Sarrebourg, qui était en dématérialisé.
dématérialisé.
Et bien maintenant, toutes les communes ont pu l'être. Et on a fait un grand pas. Et bon, il y a moins de permis, de demandes d'autorisation, puisque les architectes aussi sont un peu au ralenti, mais néanmoins, notre service continue et les services instructeurs, que ce soit en préfecture, à la DREAL et autres, continuent d'une manière un peu dégradée, mais continuent d'instruire. Donc, c'est plutôt bien. On a maintenu un service d'accueil téléphonique et c'est notamment Fanny qui s'en charge. C'est elle qui va à la poste, qui vient ici, qui, voilà, qui scanne quand notamment les demandes de permis ne sont pas scannées. Tout cela roule correctement. Puis, bien entendu, le service ressources humaines est également en activité. Donc, encore une fois, merci à tous les services et un satisfecit tout à fait particulier au personnel, aux agents du pôle informatique, puisque si nous avons aujourd'hui 75 agents en travail à distance et cela a été fait sur 24 heures, c'est parce qu'il y a vraiment eu une diligence et une compétence extraordinaire. Et je souhaite qu'on applaudisse nos agents du pôle informatique. Alors, vous m'entendez, moi, je ne vous entends pas, mais on vous applaudit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous chattez dans ce cas-là. Il n'y a pas de questions.
Roland, il faudrait juste nommer un secrétaire des séances et puis.
Fabien n'est pas là. Sinon, c'est Jean-Pierre Matz, non, qui est là?
Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu.
Je suis là.
D'accord.
Jean-Pierre.
Ok.
Vous m'entendez?
Oui.
Allô, allô.
On entend.
Ok, c'est bon.
Voilà. Bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je continue sur les informations. Il y a eu la question de la commande de masques. Il faut savoir que les intercommunalités, en tout cas nous, n'avions pas été contacté par l'AMF, donc l'Association des maires de France, pour le groupement de commandes. Donc, on a un peu échappé à cela. Et du coup, j'étais déjà un peu sur les traces de certains fournisseurs. J'ai mis en place une commande par des amis que j'ai sur Strasbourg, un groupement pharmaceutique qui est en lien avec un groupe industriel de matériel de sport, etc., qui s'appelle Montrichard Group et qui est implanté à Hong Kong et qui aujourd'hui a changé un peu son fusil d'épaule. Il ne fournit plus spécifiquement des matériels de sport, mais il s'est mis aussi dans la fourniture de matériel de protection. Et nous avons pu avoir une garantie de qualité. J'ai appris en faisant ce tour d'horizon que beaucoup de masques qui sont livrés aujourd'hui par millions en Europe et surtout en France, eh bien la plupart ne sont même pas conformes puisque la Chine a, comme ils savent le faire, ils ont mobilisé et créé de nouvelles entreprises, comme ils ont construit un hôpital. En 24 heures, ils vous montrent une usine de fabrication, mais sans forcément les outils et le savoir-faire. Là, on a affaire à des usines qui sont totalement agréées. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu ça à la presse, le gouvernement chinois, il a mis un peu le holà à tout ça. Et maintenant, il ne donne plus la fabrication qu'à des entreprises agréées. Ce qui malheureusement crée un peu une configuration délicate pour ces entreprises qui voient affluer des commandes en nombre, mais elles en ont profité pour augmenter les tarifs. Donc nous, on a encore passé un peu entre les gouttes. Donc j'ai eu confirmation hier soir, suite à la commande que nous avons passée, à savoir 100 000 masques chirurgicaux et 12 500 masques type FFP2, et bien que les prix sont maintenus, donc hors taxes et hors frais de port, eh bien 48 centimes pour le chirurgical et 1,85 € pour le FFP2, ce qui sont des prix très intéressants. On a ouvert un peu cette commande au maire et je pensais que tout le monde avait déjà été servi par l'AMF, apparemment non. D'emblée, on avait dit la communauté de communes se réserve 50 000 masques parmi les 100 000 et puis les 50 000, on peut les redistribuer. Aujourd'hui, on a déjà dépassé le quota des communes, puisqu'on a une commande de 60 000, une réservation de 60 000 masques chirurgicaux par vous, et puis 18 000 masques FFP2, donc il faudra qu'on fasse un peu le tri, en sachant que j'ai la garantie qu'on pourra repasser une nouvelle commande d'ici quelques jours. On verra, il faut aussi voir maintenant l'évolution des commandes, des fabrications, notamment de masques lavables, réutilisables, et notamment pour l'industrie locale, puisqu'on sait que, et Camille est au fait de cela, il suit cette affaire, Camille Ziger, quelques industriels de notre secteur eh bien, vont se convertir aussi à la fabrication de masques réutilisables, donc lavables. Donc, on va peut-être attendre un peu, mais en tout cas, on a la garantie que ces masques seront fabriqués sous 12 jours et livrés d'ici fin avril. Je ne sais pas si vous avez entendu, les futures commandes, eh bien, c'est plutôt pour mi-juin qu'elles pourraient arriver. Donc, d'ici là,
Roland, on aura... Roland, il y a une question de Virginie Faure.
Oui.
Virginie Faure qui dit qu'une personne âgée demandait si les communes fourniront des masques.
Alors, moi, j'ai entendu le président comme vous. Il a dit que tout le monde aurait des masques et ce seront peut-être les communes qui seront les dépositaires de ces masques. Alors, est-ce que ce sont les communes qui vont acheter ou est-ce que c'est le gouvernement qui va les doter? Ça, il faut attendre. Je sais que quelques maires d'entre vous ont déjà prévu le coup, notamment en masques, je pense, réutilisables, parce qu'équiper tout le monde de masques jetables, ça va être un peu compliqué en termes de quantité. Mais néanmoins, voilà, si moi je vois, il y a certaines communes qui ont réservé une grande quantité. Je pense que c'est pas que pour les agents communaux, c'est déjà pour équiper sans doute certains citoyens, et tant mieux. Donc voilà. D'autres questions?
J'ai pas d'autres questions.
Il n'y a pas d'autres questions. Je précise une question qui nous est arrivée dans le tour d'horizon pour les réservations de masques, qui a été fait donc par Martine Schuller. On nous posait la question sur la fourniture de gel hydroalcoolique. Eh bien, nous sommes en contact aujourd'hui avec une entreprise de Meurthe-et-Moselle, dont le fournisseur, qui s'appelle d'ailleurs Christophe Daval, habite à Rédin, donc il est chez nous. Je ne sais pas si les Rédingeois le connaissent. Et lui, il est représentant de cette entreprise qui, aujourd'hui, est en mesure de fournir des quantités assez importantes de gel hydroalcoolique. Et on va, je pense, faire un groupement là-dessus. Ils répondent aux normes et notamment aux tarifs qui étaient imposés par l'État. Le conditionnement est de deux façons, soit des demi-litres, donc ce n'est pas des petites quantités, des demi-litres à 7,50 € le demi-litre, ou soit des bidons de 2 litres, mais après les gens pourront avoir bien sûr leur propre contenant. Le bidon de 2 litres, c'est 30 €. Donc on va lancer un appel auprès de vous pour savoir si les uns ou les autres sont intéressés par cette commande. Pas de réaction? Pas de réaction.
J'en ai pas d'autres.
Bien, si vous le permettez dans le processus de l'ordre du jour, on va rentrer un peu maintenant dans le domaine économique pour notre action en faveur du soutien de nos entreprises. L'une des premières décisions que nous avions prises en bureau et en réunion de direction, c'était de suspendre le loyer des entreprises que nous hébergeons. Nous hébergeons aujourd'hui 8 entreprises. Et donc, nous avons décidé pour les mois d'avril, de mai et de juin de suspendre le loyer. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'était hier, le gouvernement demandait à ce que les loyers soient supprimés pour les mois de confinement. Bon, on verra, mais en tout cas, on reporte ces loyers. Je vous les liste rapidement, les hébergés. C'est KPMG, l'entreprise KPMG, c'est l'entreprise BWDI. C'est le restaurant M de Niervillers qui était le premier d'ailleurs à nous solliciter à ce sujet. C'est la boulangerie de Langatte, c'est le garage automobile de Langatte, c'est aussi le cabinet de kiné à Langatte et la MAM que nous hébergeons à Langatte. On y rajoute bien entendu aussi la micro-crèche ici aux terrasses. Et puis il y a également les boissons Jérém qui ont sollicité un report. Voilà. Il y a des réactions là-dessus. Bien. Alors, nous abordons maintenant le plat de résistance, et c'est le mot, puisque nous allons parler du fonds de résistance. C'est là où nous aurons à nous déterminer par un vote.
Oui, Roland, il y a juste une question de Benoît Piatowski. Est-ce que c'est le report, la suspension des loyers, est-ce que c'est un report?
Oui, c'est un report, pour l'instant. Je précisais qu'aujourd'hui, enfin, j'ai vu que dans la presse notamment, le gouvernement demandait à ce qu'il y ait des suppressions de loyers pour la période de confinement. On verra. Pour l'instant, nous, on est plutôt un report. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui nous avait été demandé par les entreprises concernées. Bien, le fonds de résistance. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous savons que face à cette grosse tempête sanitaire, il y a derrière eh bien, un monde en souffrance et en interrogation, c'est le monde économique qui est pour l'essentiel, pour 80% totalement à l'arrêt. Et on s'imagine l'inquiétude de ces chefs d'entreprise pour le moment, mais aussi ensuite pour l'avenir, leur avenir, et puis malheureusement par ricochet sans doute, même si telle ou telle entreprise voulait et pouvait s'en sortir, peut-être par ricochet de la part de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs, eh bien, serait encore une fois doublement mise à mal. Donc, face à toutes les mesures du plan d'urgence mis en place par l'État, qui porte sur 110 milliards d'euros, ce n'est pas neutre. Je les cite rapidement. Il y a eu le chômage partiel qui aujourd'hui eh bien, concerne 8,5 millions de salariés, où le contact, c'est la directe qui est en contact. Ensuite, il y a le report de paiement des impôts et des cotisations sociales. Certaines entreprises demandent à ce qui est là aussi carrément une suppression. Il y a les créances bancaires qui vont être reportées jusqu'à 6 mois. Donc ça, ce sont les banques qui agissent en leur nom. Il y a des crédits bancaires garantis possibles grâce à BPI France. Il y a le prêt rebond qui, lui, est apporté par la région et par BPI France pour les PME, les moyennes entreprises. C'est des montants de 10 000 à 150 000 euros avec un taux de 1,12%. Il y a le prêt à tout pour les très petites entreprises, mais aussi les PME, les ETI, pour un besoin de financement ponctuel, lui, peut aller de 50 000 à 5 millions d'euros. Et puis vis-à-vis des artisans commerçants, eh bien, qui seront vraiment mis à mal, eh bien, il y a eu le fonds de solidarité qui a été mis en place par l'État et la région Grand Est, enfin toutes les régions, qui est d'un montant de 1 500 euros, donc une avance remboursable de 1 500 euros qui peut aller jusqu'à 3 500. J'ai même entendu qu'elle pouvait aller jusqu'à 5 000, mais bien sûr, si vraiment il y a des complexités. Et voilà. Et malgré cela, malgré tous ces dispositifs, malgré ce plan d'urgence, il est à craindre que certaines entreprises vont passer à travers les mailles du filet et seront laissées pour compte et n'auront pas d'autres recours. Et c'est là que la région Grand Est, et notamment donc son président, Rottner, eh bien, a imaginé un fonds qu'on appelle le fonds de résistance, qui est le fonds un peu de dernier recours, de dernier secours pour celles et ceux qui n'ont pas eu d'aide ou malgré les aides, eh bien, n'arriveront pas à redresser la barre. Alors, c'est un fonds qui est assez intéressant puisqu'il fait participer un grand nombre de collectivités. Donc, c'est un fonds qui a été proposé aux conseils départementaux qui, pour autant, n'avaient plus la compétence économique, mais quand il s'agit de trouver des fonds, l'État ferme les yeux, qui a été proposé aux EPCI, donc aux communautés de communes, agglomérations, métropoles, etc., mais aussi à la Banque des territoires, donc à la Caisse de dépôt. Et spontanément et rapidement, eh bien, ce dispositif a pu être mis en place. Moi, j'ai assisté à 3 réunions téléphoniques avec la région, avec le président, avec la préfète. Nous étions 170 au téléphone, mais c'était très bien organisé, sauf ça durait quand même un peu plus de 3 heures, donc c'était fastidieux. Mais néanmoins, c'est là qu'on a élaboré le dispositif et son organisation. Donc, en fait, la région nous a proposé, et a proposé la même chose au département et à la Banque des territoires, de mettre comme elle 2 euros par habitant dans une cagnotte. Et finalement, par ricochet, avec les 4 collectivités intervenantes, c'est 8 euros par habitant. Ce qui fait un fonds qui porte à près de 45 millions d'euros pour la région Grand Est. Et comme les fonds vont être fléchés par territoire, pour notre territoire, eh bien, nous aurons à verser donc 90 000 et quelques euros, 90 772 euros. Mais en contrepartie, eh bien, par cet effet boule de neige, eh bien, nous allons pouvoir disposer de 363 088 euros pour notre territoire et donc pour les entreprises en souffrance sur notre territoire. Donc, c'est un dispositif tout à fait inédit, intéressant et qui marque bien la solidarité nécessaire dans ces temps difficiles. Alors, les conditions pour y accéder, c'est que vous n'ayez pas eu des aides par ailleurs qui vous permettent, bien sûr, de reprendre l'activité, que votre activité était affectée d'au moins 50% entre le mois de mars, par rapport donc le mois de mars 2020 et le mois de mars 2019, que les bénéficiaires, eh bien, c'est les très petites entreprises, donc celles de 10 salariés et moins, et puis les associations, et les associations, bien entendu, qui sont chefs d'entreprise, c'est-à-dire qui ont des salariés, et les associations, c'est jusqu'à 20 salariés. Il s'agit des associations qui s'occupe de culture, de sport, tourisme, environnement, santé, mais aussi d'insertion. Le soutien de base, c'est une avance également remboursable. L'avance pourrait être de 5 000 à 10 000 euros par entreprise et de 5 000 à 30 000 euros par association. Et il y aurait une prime aux activités indispensables qui ont été reconnues indispensables pendant cette pandémie, à savoir toute la chaîne agricole et la chaîne agroalimentaire. Et là, ce serait un forfait de 500 euros par salarié de ces activités. Le remboursement de ces avances se ferait sur 1 à 2 ans, selon donc la trésorerie de l'entreprise. Et puis, on sait très bien que malheureusement, malgré cela, malgré tout cela, peut-être certaines entreprises ne pourraient pas rembourser. Donc, la communauté de communes va mettre 2 euros par habitant, mais ces 2 euros par habitant nous seraient en grande partie, peut-être en totalité, remboursés à échéance 1 ou 2 ans. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions? Après, je rentre dans l'organisation du dispositif. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, il y a une question qui m'est arrivée qui n'a rien à voir, enfin, qui n'est pas directement liée au fonds de résistance. C'est Michel Gérard qui demande l'impact des non-cotisations sur le transport Easy de la CCSMS1.
J'y viendrai tout à l'heure à ces points-là. On a encore plusieurs points, hein, voilà. Mais je viendrai là-dessus. Il n'y a pas de questions sur le résistance pour l'instant. Donc, ce fonds, eh bien, la commune, elle est bien sûr, elle a été d'emblée volontaire à y adhérer, portée par l'adhésion du bureau. En fait, quelle est l'organisation générale? Donc, la région a mis en place et a mis un peu de temps. Hein, on a perdu facilement 8-10 jours, mais malheureusement, bon, en service confiné, la région a aussi ses complications. Il y aura un portail de saisine dématérialisé, donc les entreprises pourront directement s'adresser et se porter candidat, ce fonds au niveau de ce portail, qui, bien entendu, va réclamer pas mal de documents, de renseignements sur l'entreprise, sur sa situation économique, etc. Ce portail, eh bien, nous y avons un droit d'accès, notamment Damien Harry, mais aussi Madeleine Sivers, qui est notre chargée de mission du département, donc de Moselle Attractivité. Nous allons extraire de ce portail quotidiennement les entreprises de notre territoire qui s'y sont inscrites pour un peu accompagner ces entreprises. Et c'est là que j'ai sollicité Camille Zigère et Michel Roy au titre de la plateforme d'initiative locale qui dispose d'un comité d'engagement qui est très expert et qui connaît bien le monde économique local, à savoir il est composé d'experts comptables, il est composé de banquiers, d'anciens chefs d'entreprise. Donc ces personnes pourront être des relais et on va les nourrir régulièrement des entreprises qui sont adressées à la plateforme, adressées au fonds. On va les nourrir pour qu'ils puissent derrière conseiller, porter ces entreprises pour qu'elles puissent accéder et obtenir ce fonds. Donc voilà, ce premier rôle de la communauté de communes, c'est d'être un animateur et un facilitateur pour nos entreprises pour accéder à ce fonds. Nous allons bien entendu assurer la promotion de ce dispositif et nous avons déjà prévu un visuel avec un texte d'accompagnement qui va être sur nos réseaux sociaux, sur notre site informatique, mais qui aussi paraît dans la presse locale sous forme de demi-page où il y a tous les renseignements et ce qu'on attendait, c'est avoir justement les moyens de contact à ce dispositif elles viennent d'être délivrées, révélées hier après-midi par le président Rottner. Donc, on n'avait encore pas les moyens d'indiquer les moyens de contact. Donc, très rapidement, et dès, je pense, dimanche ou lundi, on pourra commencer à promouvoir ce dispositif et le suivre au quotidien. Ensuite, les entreprises, quand elles auront émargé et rempli les cases, eh bien, il y a une réunion mensuelle tous les mardis à laquelle, a priori, je vais participer si vous me nommez comme tel. C'est un comité d'engagement départemental. Tous les financeurs sont représentés. La région y sera. Le département y sera et c'est notamment Patrick Reichel qui est notre représentant sur le territoire. Moi, j'y serai pour notre communauté de communes. Et puis, bien entendu, la Banque des territoires. Et ce comité, eh bien, il va lister entreprise par entreprise et toujours pas visioconférence, on aura à cocher si on a valide ou non l'élection de cette entreprise au dispositif. Et lorsque tout le monde a coché la case, eh bien, il y a plus de questions. On envoie ça à la région. La région a elle-même un comité d'engagement qui, sous les 48 heures, doit engager les financements nécessaires vis-à-vis de l'entreprise. Donc voilà, on a un rôle de promotion, de veille, mais ensuite aussi de validation des entreprises qui auront sollicité ce dispositif. Y a-t-il des questions sur notre rôle? Parce qu'il y a une décision à prendre, donc après je vais donner lecture donc de la délibération que je soumets à votre vote. Y a-t-il des questions, Philippe?
Je n'ai pas de questions en chat, non.
Est-ce que j'étais donc assez clair? Vous aurez bien entendu tous, on va vous envoyer à tous le visuel que nous mettrons demain sur les réseaux, etc., ou dans la presse. Comme ça, vous pourrez vous-même l'imprimer, l'afficher, je ne sais pas où, si vous avez une épicerie, une boulangerie d'ouverte, vous pouvez l'afficher pour que les entreprises soient au fait. Alors, je vais vous lire donc la délibération. Donc, pour notre collectivité, la contribution est estimée à 90 772 euros. Cette avance remboursable sera accessible selon les termes et conditions du règlement. Vous les avez eus d'ailleurs en pièce de ce conseil communautaire. Donc, je vous propose de participer au Fonds régional résistance à hauteur de 2 euros par habitant, soit 90 772 euros, de confier à Moselle Attractivité la gestion administrative du Fonds résistance, avec la réserve que nous aurons un rôle vraiment de veille active, et de me nommer comme représentant de notre communauté de communes au comité d'agrément du Fonds Résistance. Y a plus de questions? Je vais mettre en voix. Alors, pour les voix, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des avis contraires? On va avoir les chats. La Queen, voilà. Pas d'avis contraires. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Il y a quelque chose qui… Voilà, ça va mieux. Alors, j'ai…
Est-ce qu'il y a des résultats au vote, Philippe?
Je n'ai pas de retour de chat, là, pour l'instant.
Donc… Je vous remercie. Donc, je prends acte de cette unanimité pour ce fonds et donc qui nous permettra de participer au Fonds régional résistance à raison de 2 euros par habitant, de confier à Moselle Attractivité la gestion administrative du fonds et que je vous représente la communauté de communes tous les mardis donc au comité d'engagement. Mais bien sûr, je vous remercie, mais il faut bien savoir que sans doute cela ne suffira pas. On le sait très bien, pour certaines activités, et il faut craindre, comme je le disais, l'effet domino dans certaines filières, certains écosystèmes. Et puis, il y a notamment les restaurateurs, les cafés-bars, les hôtels. On a aujourd'hui le cas notamment de l'hôtel-restaurant des Vosges, l'hôtel des Vosges à Bréchuller, qui nous a sollicité et pour lequel nous sommes en veille. Et on attendait la sortie du fonds, mais est-ce qu'il suffira? Voilà une entreprise qui… je demande à la presse de ne pas la nommer, mais une entreprise qui a été en difficulté il y a 2 ans et l'année dernière était encore en redressement. Mais néanmoins, 2019 a été plutôt une très bonne année puisque l'entreprise a réussi à augmenter de 55 000 euros son chiffre d'affaires, soit de l'augmenter de 33 %, autant pour l'hôtel, autant pour la partie restaurant. Donc, plutôt de bon augure. Et bien maintenant que cet hôtel sortait un peu la tête de l'eau, et bien à la sortie du printemps où elle pouvait espérer une saison estivale intéressante pour sa survie, et bien voilà qu'est arrivé le petit virus qui a mis à plat, bien entendu, tout l'espoir du chef d'entreprise. Donc c'est clair que j'ai demandé à nos services et à Moselle Attractivité d'être particulièrement vigilants vis-à-vis de cette entreprise. Nous avons aussi une personne qui gère des gîtes qui est également aujourd'hui en délicatesse et donc on comprend bien que pour toutes ces personnes, eh bien, ça sera très difficile. Et encore une fois, j'ai eu le président des boulangers, de la Corporation des boulangers ce matin, hier, celui des restaurateurs. Bien entendu, ils sont en attente de soutien d'où qu'ils viennent, mais ils sont un peu déçus parce qu'ils devraient venir de l'État et qu'il ne vient pas encore aujourd'hui, donc c'est très difficile. Sachez, par exemple, qu'une boulangerie qui n'a pas un salon de thé est censé ouvrir et donc n'a pas droit à du chômage partiel. Or, on sait très bien que la fréquentation et le chiffre des boulangeries n'est pas du tout à la hauteur. Il est de 30% aujourd'hui de l'activité normale. Et donc, ces entreprises ont véritablement énormément de soucis aujourd'hui. Je vous montre juste, je ne sais pas si vous le voyez, voilà le visuel qui va être mis dans la presse et sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce point était le point, comme je le disais, de résistance et nous allons résister.
Oui. Il y a une question, une remarque de Jean-Yves Schaff qui précise que le tourisme va particulièrement souffrir et par rebond, leurs prestataires, le bâtiment est aussi en grande difficulté.
J'y viendrai aussi. Je suis conscient de tout cela. Alors, nous avons d'autres mesures.
Roland. Oui, juste une précision. Tu as donné le nom d'une entreprise, c'est l'hôtel des Cigognes, c'est pas l'hôtel des Vosges.
Des Cigognes, excusez-moi. J'en étais pas loin, mais bon, voilà. Oui, merci Camille de cette précision. Merci. Bien, nous n'allons pas en rester là pour notre appui aux entreprises et nous avions, depuis 10 jours, nous travaillons sur une mesure, en tout cas sur une action vis-à-vis de nos entreprises, d'abord sous forme de sondage. Il faut que nos entreprises sachent déjà que nous existons, que nous sommes présents et engagés à côté d'elles pour lutter contre leurs difficultés. Et donc, nos services dirigés au niveau économique par Damien Harry, mais aussi avec notamment l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, qui est vraiment aujourd'hui bien armé pour ce type de sondage, puisque nous avons avec l'aide notamment de la CCI et de la CMA, a pu avoir un bon listing. Nous avons envoyé, avant-hier matin, 1052 questionnaires aux entreprises du territoire. Questionnaire très simple, avec un petit texte, une lettre de ma part qui explique un peu notre démarche. On demande le nom de la structure, le nom du chef d'entreprise et celui qui a répondu au mail, et puis les coordonnées. Et ensuite, on pose 8 questions. Sur le plan administratif et sur le plan du fonctionnement. Tension sur la trésorerie, report d'achat, investissement, chômage partiel, réduction des effectifs, équipement particulier à préciser, compétences spécifiques, besoins ponctuels, etc. Et on leur pose 2 questions subsidiaires. Avez-vous des ressources, compétences, biens, équipements, matières premières que vous pourriez mettre à disposition d'autres entreprises du territoire dans ces temps un peu difficiles? Et avez-vous des remarques ou des propositions à formuler? Eh bien, en 24 heures, je dis bien en 24 heures, nous avons eu 106 réponses, dont la moitié, un peu plus de la moitié d'entreprises de Sarrebourg même, de la ville de Sarrebourg. Donc, on voit très bien aujourd'hui l'inquiétude des entreprises, mais aussi leur soif d'être prise en compte et d'être entendue. Et là, vous voyez, Philippe, il a affiché la première synthèse des 106 réponses. On en aura au fil des journées. Eh bien, vous voyez que 65%, c'est le chiffre un des plus forts, les entreprises ont besoin de renforcer leur trésorerie, on le savait, mais que 69% des entreprises aux besoins d'équipements de protection sanitaire. Donc, c'est aussi vers ces entreprises qu'il faudra qu'on se tourne pour qu'elles puissent redémarrer en toute sécurité l'activité si elles ne trouvent pas de solution par ailleurs. Et puis, vous avez vu que 79% des entreprises ont déjà mobilisé une ou plusieurs aides, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas attendu, bien entendu, le fonds résistance pour demander au secours, appeler au secours. Est-ce qu'il y a des questions et réactions sur cette initiative que nous avons prise, qui n'est pas prise partout, et qui, je pense, va nous permettre d'alimenter aussi le fonds résistance, mais aussi d'autres interrogations que nous pourrions nous faire. Philippe, est-ce qu'il y a du monde au portail?
Je ne sais pas si j'ai un message de Jean-Yves Schaff, très bonne initiative.
Bien, voilà. Je continue encore parce qu'on a encore quelques communications. Tout d'abord, nous avons aussi, et cela a été un peu un souhait aussi de la région Grand Est, mais aussi du gouvernement, c'est pour toujours ce besoin de trésorerie pour les entreprises. Eh bien, il y a une ordonnance qui a été prise, l'ordonnance 319 par le gouvernement, qui pouvait autoriser les collectivités à verser des avances sur des marchés signés, marchés de travaux, avec les entreprises avec lesquelles bon, nous avons des marchés, et qui n'ont encore pas, pandémie oblige, pu démarrer ces travaux. Donc, c'est des avances forfaitaires aux entreprises locales, je répète, sur des marchés signés, avec néanmoins une garantie pour nous, c'est une garantie bancaire à la première demande. Nos services, et notamment services ingénierie, Yacine Topner est en train de regarder cela avec les banques, et apparemment tout le monde est mobilisé, les entreprises sont vraiment demandeurs de cela. Donc nous avions, je ne sais pas si tu as le tableau, Philippe.
Tableau, non,
il n'est peut-être pas là. Nous avons en fait deux grands thèmes de travaux. Nous avons d'une part l'extension de la Comcom, du siège, dont tous les marchés ont été signés, et les réunions avaient commencé d'ailleurs. Et là, nous avons 6 entreprises locales qui sont concernées, qui ne sont pas des énormes entreprises. Donc, nous avons l'entreprise Avagno, l'entreprise Alfred Klein, Relais, lui, menuiserie, donc Roger, Mille Décors, et SNE. Et l'idée, c'est de proposer une avance de 20 ou 30%, bien sûr sur demande, sur sollicitation de l'entreprise, et toujours avec ces garanties bancaires. Donc, ce n'est pas neutre hein, pour ces entreprises. Par exemple, Savagno, eh bien, ça représenterait 86 000 euros. Pour Alfred Klein, 25 000, 27 000 pour René et lui, 19 000 pour Roger, 1000 décors, c'est 12 000 et 23 000 pour SNE. Donc, voilà un premier volant donc d'entreprises concernées. Mais ensuite, bien sûr, il y a tous les travaux d'assainissement. Nous avions lancé rapidement les travaux d'assainissement, les marchés pour l'assainissement de Hémin, de Schneckebuch et de Hermelange. Ce sont des travaux assez conséquents. Et là, ce sont des entreprises plus importantes, mais néanmoins qui ont aussi besoin de trésorerie. Il s'agit des entreprises Colas, Sogea, Opur, pour Hémin, Karcher, Lingeneld et Lascré. Donc, voilà, on est en train d'étudier ces dossiers, voir avec les banques, déjà, voir si les entreprises sollicitent ces avances et voir avec les banques, on vient déjà d'en avoir, leur autorisation. Alors, c'est une autorisation qui est donnée par les sièges régionaux des banques. Par exemple, le Crédit Mutuel, c'est Strasbourg qui répond, mais la réponse est apportée sur 24 heures. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mesure d'avance sur trésorerie sur des marchés signés avec telle ou telle entreprise? Philippe, tu n'as plus le micro?
Je n'ai pas de questions.
Pas de remarques. Donc vous voyez bien que nous sommes mobilisés sur bien des domaines parce que l'urgence, bien sûr, est telle aujourd'hui. Alors, je voudrais indirectement répondre à la question, je crois que c'était Gérard Michel qui parlait de… Ah non, c'était Easybus. Mais je voulais parler du tourisme rapidement. Il est clair que le monde touristique est… Nous sommes un territoire touristique et bien souffre beaucoup. Je me suis entretenu notamment avec Bagriot, hein, qui, au niveau du groupe, Il faut savoir que le groupe Pierre et Vacances a fermé tous ses sites en Europe et pratiquement dans le monde, donc c'est énorme. Alors bien entendu, ce sont des gros groupes et qui, j'espère, retrouveront leur santé assez rapidement, mais néanmoins. On s'était posé la question pour savoir si on allait suspendre le versement de la taxe de séjour. En fait, la taxe de séjour, elle est payée par le touriste, par l'occupant. Donc si tout est fermé, il n'y a plus de taxe de séjour. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que est-ce que on va décaler la perception de la taxe de séjour du premier trimestre, enfin presque premier trimestre, puisque le 17 mars, tout le monde a fermé. Eh bien, là-dessus, c'est surtout Center Parcs qui est concerné. Il se trouve que Center Parcs nous a déjà versé cette taxe de séjour. Donc, pour l'instant, on n'avait pas modifié notre attitude. Au-delà, et je pense à Sainte-Croix, je pense à Mittersheim, à Langat, à Bréchuler, etc., à tous ces sites, qu'ils soient majeurs ou pas, en tout cas, ils sont essentiels pour notre économie touristique. Eh bien, j'en avais discuté avec Rotner, mais aussi avec Patrick Weiten. Ils sont sensibles à cela et nous allons. L'idée, c'est de mener une campagne promotionnelle vraiment agressive assez rapidement, puisque dès l'été, il faudrait être opérationnel. On sait que beaucoup de nos concitoyens du territoire national n'iront pas à l'étranger, donc autant qu'ils aillent là où il fait bon et où le déconfinement est agréable, eh bien, on leur propose de venir se ressourcer auprès de notre territoire tout à fait naturel et qui a tout ce qu'il faut pour les remettre un peu en… parce qu'ils viendront peut-être en famille. Ça permettra à ressouder un peu les liens qui étaient dispendus pendant ces mois. Eh bien, donc d'une grande campagne promotionnelle. Et bien entendu, moi j'avais dit qu'on examinerait notre participation financière à cette campagne de promotion. J'ai vu d'ailleurs hier, Patrick Weiten a fait un courrier au ministre du Tourisme pour lui indiquer notamment la tristesse aujourd'hui et les frais engagés par notamment les parcs d'animaux, que ce soit Amnéville, que ce soit Sainte-Croix ou d'autres. Eh bien, parce que les animaux, bien sûr, ils sont tranquilles, mais ils doivent être nourris, soignés et tout ça, et ce sont des charges supplémentaires. Le chômage partiel, il ne peut pas être mis en place. Donc, vraiment des situations délicates si la période devait durer. Donc, pour répondre à Jean-Yves, peut-être plus indirectement, nous sommes vraiment vigilants et nous serons jouer notre rôle au niveau touristique. Je pense qu'Alain Marty est tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Si Alain veut intervenir.
Oui. Roland, on t'entend ?
Oui, on t'entend.
Oui. Voilà. Bon, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut une campagne qui ne peut pas être menée à notre échelon sur le fait que les publics endogènes vont devoir consommer du... Ils feront la campagne. Nous pouvons relayer un certain nombre de choses avec peut-être la possibilité d'avoir des journées sur notre territoire, soit vers Center Parcs, soit vers Sainte-Croix notamment, ou d'autres, et on aurait à capter les clientèles, ceux qui portaient de la vie et relancer la. Je te suis tout à fait. J'avais eu. Ce sujet, donc c'est un élément important. Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit.
D'accord. Bien, s'il y a pas d'autres...
J'ai plusieurs questions qui sont arrivées là entre-temps. Questions et précisions. Donc, Roland Gilliot qui précise que la Colas va reprendre partiellement la semaine 17. Claude Vouriot qui précise que l'ASCRE va redémarrer le chantier de renouvellement d'eau potable à Niedervillers lundi matin. Jean-Michel Sasso qui précise donc que le coût pour la mise en place des ordonnances pour respecter la mise en place des chantiers est de 120 euros par employé par mois, ainsi qu'un employé à mi-temps au bureau pour suivre la mise en place quotidienne.
Ouais. Donc, et qui ne sont pas en chômage partiel.
Voilà. Et enfin, Jean-Luc Chéniaud qui fait une proposition pour la taxe de séjour, à savoir une suspension de la taxe de séjour toute l'année 2020 et un taux maxi en 2021.
D'accord, on prend ces remarques. Bon, taxe de séjour, on n'a pas de décision aujourd'hui. Il faut d'abord qu'on en parle au bureau. Vous savez que cette taxe de séjour, c'est pour nous en année normale 1,5 million d'euros. Faire l'impasse sur les deux tiers de cette taxe de séjour, ce n'est pas évident non plus, parce que comment voulez-vous soutenir l'entreprise? Encore une fois, ce n'est pas l'entreprise qui paye, c'est bien le touriste. Alors, est-ce qu'il faut mener à une réduction à 50% de la taxe de séjour pour l'usager? Je ne sais pas. Il faut nous laisser un peu de temps d'y réfléchir. Nous aurons un bureau sans doute courant de la semaine prochaine. On pourra mettre cela sur la table. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de touristes. Donc, jusqu'à l'ouverture de ces activités, c'est-à-dire jusqu'au moins au 11 mai, il n'y a pas de questions à se poser sur cette chose. Oui?
Deux autres questions ou remarques. Jean-Luc Hubert qui s'interroge, il faudrait déjà avoir la date de réouverture exacte des campings et lieux touristiques, des réunions de groupe pour les fêtes d'été. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, rien de précisé.
Bon, ce sont les opérateurs, je pense, les propriétaires gestionnaires des sites qui vont ouvrir, mais on sait très bien qu'il va y avoir des mesures contraignantes vis-à-vis des regroupements. On est un peu dans le flou, on ne sait même pas comment nos enfants vont rentrer à l'école. Donc, moi, je serais plutôt d'avis d'être un peu vigilant, attentif et patient, parce que je pense que les contraintes vont maintenant, après la bonne parole du président, dire voilà, c'est bisounours à partir du 11 mai, sachez qu'il y aura des filets de partout, il n'y aura pas que les retraités ou les plus de 70 ans qui seront concernés, mais il y aura des contraintes importantes. Comme nous parlons de cela, j'en profite, je l'avais en point plus tard. Sachez que nous sommes aussi, j'ai demandé au service touristique de voir tous les événements que nous avions programmés d'ici le mi-juillet, puisque les rassemblements s'est limité au mi-juillet. Eh bien, on a notamment des marchés paysans à Sarrebourg, on a notamment le grand concert de Muréhead qui était prévu à Sarrebourg au mois de juin. Eh bien, nous sommes en train de voir pour reporter tous ces événements. Donc, d'ici le 11 juillet, à part, on avait dit qu'on pouvait maintenir sans doute peut-être un ou deux lots des marchés quand on en saura plus. Mais pour l'instant, ce qui était programmé au mois de juin, début juillet, nous les avons arrêtés. Donc, je ne parle même pas de Rhin-de-Moselle ou de la manifestation qui devait avoir lieu à Niedervillers. Donc, notre territoire était aussi touché et les associations ou les collectivités qui préparaient ou organisaient ces moments sont également, bien sûr, aujourd'hui dans la difficulté.
Bien, une dernière remarque encore deux remarques. Une remarque de Jean-Luc Chéniaud qui précise donc que sur Nitain à Métairie, il y a un centre équestre et qu'il y a impossibilité d'accueillir même un seul cavalier par heure, et c'est une aberration, alors que les charges fixes demeurent et que les chevaux ont besoin d'être montés régulièrement.
Oui. Non, mais comme je le disais, il y a des cas particuliers sur lesquels il faudra vraiment être vigilant.
Gérard Michel qui précise aussi que certains gîtes se sont proposés pour l'accueil gratuit de soignants ou de personnel hospitalier, donc pas de taxe de séjour.
D'accord. J'informe aussi que les gîtes de Sarrebourg ont également été mis à disposition et accueillent encore en ce moment des soignants, gratuitement bien entendu. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai maintenant une question budgétaire. Donc, vous allez de nouveau voter, s'agissant notamment donc ce fonds résistance. Suite donc à la décision du Conseil communautaire de ce jour, d'accorder à la région Grand Est une participation de 90 772 euros pour le financement du fonds, il est nécessaire de modifier la section d'investissement du budget principal pour permettre la comptabilisation de cette dépense. L'équilibre du budget se fera par l'article 1641 emprunt. Donc ça, c'est indicatif pour l'instant. Donc vous l'avez. Donc vous voyez qu'il y a modifications, autres créances immobilisées, région, ancien montant zéro, nouveau montant 90 772 euros. Et les emprunts qui étaient prévus au 1641 de 550 000 passent à 640 772. Y a-t-il des questions, des interventions demandées? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui c'est qui est contre cette décision? Donc, il le manifeste en chatant. Qui c'est qui s'abstient?
Je n'ai pas de message.
Pas de message. Je vous remercie. Donc, j'ai encore une autre décision. C'est là, nous avons alors il y a aussi des bonnes nouvelles pendant ces périodes. Nous avons donc appris que la Fédération nationale, on revient au sport, a informé le club de hand Sarrebourg-Moselle-Sud de sa montée en Pro League. Pro League, ce n'est pas rien, c'est l'équivalent de la division 2. Je rappelle que il y a plus haut niveau, il y a une division 1 et une division 2, et ensuite il y a National 1, etc. Et donc, Sarrebourg fait partie maintenant du gratin professionnel, enfin, fait pas encore, mais censé participer donc au championnat de Division 2 à partir de la rentrée prochaine. Je rappelle, c'est un groupe hein, donc de 14 équipes que de cette Division 2. Et dans ce groupe, vous avez quelques grandes écuries, le Grand Nancy, Rennes, qui est le premier actuellement. Vous avez Limoges, Strasbourg, Cherbourg, Valence, Dijon Métropole, mais aussi Célestat et Sarrebourg, le petit poussé qui pouvait y aller. Alors, il y a eu un accord sur le plan sportif et administratif de la Fédération nationale. Par contre, il y a maintenant un obstacle et auquel nous sommes sollicités, c'est le projet de budget à présenter à la Commission nationale. La contrainte qui est imposée, et on peut voilà, être pour ou contre, parce que c'est toujours des contraintes financières, eh bien, il faut que le club... Il dispose de 11 joueurs professionnels pour la prochaine saison. Il en avait 5 aujourd'hui, 11 joueurs. Et qu'il ait un budget qui soit de l'ordre de 1 million d'euros. Ils ont un petit peu baissé. Hein, c'était 1 million 100. C'est entre 900 et 1 million d'euros de budget. Aujourd'hui, le club, si la saison avait pu se terminer normalement, aurait abouti à un budget d'environ 670 000. Donc, vous voyez qu'il y a pratiquement 300 000 euros à trouver dans une période qui n'est pas simple pour le sponsoring, le mécénat, etc. Donc, nous en avions déjà parlé, notamment au bureau. Nous en avions également parlé en conseil communautaire lorsque nous avions voté le budget. Nous avions, bien sûr, été pressentis par cette montée et cette demande de financement du club à hauteur de 50 000 euros. Je rappelle qu'aujourd'hui et les années passées, nous apportions 20 000 euros par an. Donc, cette année, pour cette année, lors du dernier conseil du 27 février, nous avions voté effectivement une subvention de 20 000 euros. Le club demande 30 000 aujourd'hui supplémentaires. Alors, nous avons anticipé un peu puisque au budget, nous avions rajouté 20 000 euros de plus à l'enveloppe générale qui est dédiée au financement des entreprises, des associations. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons au-delà donc de ces 20 000 et nous en avons discuté au bureau. Bon, le bureau avait entendu le président à l'automne, le président du Hand, et nous avions été d'un avis majoritaire pour accompagner cette prouesse et cette promotion du territoire au niveau national. C'est pour nous un effort et un effet de rayonnement, d'autant plus que le club, il s'appelle aussi Sarrebourg-Moselle-Sud. Alors, et je précise juste que, par exemple, le département, la région ont déjà accepté leur de monter pour chacun à 150 000 euros, alors qu'ils étaient, je crois, à 60 000, donc ils montent à 150 000 euros chacun. Bien, y a-t-il des réactions, des chats sur oui. Cette proposition?
Oui, il y a la première réaction de Pascal Klein qui dit que c'est une très belle performance et que le soutien est indispensable pour ce club et pour faire rayonner notre pays sarrebourgeois. Et Monsieur Marty qui souhaite intervenir après le vote.
Oui, d'accord. Alors, nous aurons quelqu'un qui va, je pense, s'abstenir. C'est notre ami Jean-Yves Schaff, qui fait partie, bien sûr, du comité, mais qui doit être attentif à la décision qui va être prise. Donc, s'il n'y a pas de questions…
Il s'est abstenu, et la mairie, Jean-Luc Chéniaud, qui précise qu'il est très favorable aussi.
D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est un honneur pour notre territoire, même si derrière, c'est une contrainte financière supplémentaire. J'espère que le club arrivera à boucler le budget. Je me suis entretenu encore tout récemment avec le président. Bon, en temps normal, ce niveau atteint permet de rayonner davantage dans les mécènes. Il y avait certains nouveaux mécènes qui pouvaient entrer dans le tour de table. Est-ce que là, ils sont encore dans cette même attitude? C'est pas certain. Espérons que dès la reprise des activités, eh bien, ces entreprises se remettent à donner signe de vie. Bien, je vais mettre au voix. Qui c'est qui est contre? Vous chattez si vous êtes contre.
Philippe? Je n'en ai pas pour l'instant.
Qui c'est qui s'abstient?
Donc, j'ai une abstention, Jean-Yves Schaff.
D'accord. Bien, s'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie, je pense, au nom du club. Encore une fois, la ville de Sarrebourg est bien entendu également sollicitée pour mettre davantage au panier et surtout sollicitée pour augmenter le nombre de jauges, augmenter la jauge de Coubertin, donc pour accueillir plus de spectateurs, parce que forcément, il y aura plus de spectateurs et donc aussi l'espoir de plus de recettes. Bien, si, Alain voulait intervenir.
Alain Marquis souhaite intervenir, oui, tout à fait.
Alain, tu as la parole.
Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Je voulais faire une remarque. Je trouve l'attitude sportive à dépenses de masse égale considérable pour les clubs. Bon, c'est vrai pour les clubs de foot, mais il y a la redevance. Aujourd'hui, les clubs du top 14 sont en grande difficulté. Et on voit que la Fédération de Hand, en demandant des budgets qui vont sans doute être un peu revus à la baisse, mais qui sont de l'ordre du million, pour être en voire énorme. Se retrouver dans une situation où le va être fortement, et je ne suis que
voilà,
je voulais faire.
On n'entend pas à la merde. On n'entend pas à la merde.
Comment?
On vous entend pas.
Il est arraché. Le son, il est arraché.
Oui, donc je ne sais pas ce que je peux faire pour l'améliorer. Vous entendez pas bien, là?
Oui, monsieur Marty. Monsieur Marty, il faudrait vous rapprocher de votre box si vous êtes en Wi-Fi.
Ah. Bon, alors je me rapproche de ma box.
Voilà.
Voilà. Est-ce que c'est mieux?
Ouais, ben pour l'instant, oui.
Bon. Eh bien, si c'est mieux, je reprends très rapidement. Je suis d'accord avec la décision que l'on a prise. Je voudrais faire remarquer que je trouve l'attitude des fédérations sportives excessivement dangereuse en poussant les masses salariales de façon vraiment importante pour les clubs. Beaucoup de clubs du top 14 en rugby sont en grande difficulté parce qu'on les a poussés à avoir des budgets vraiment conséquents. C'est vrai aussi pour le foot. Et on se rend compte que pour être en Pro League, il faut un budget aux environs du million d'euros. Et on amène les clubs à vraiment avoir des dépenses très, très lourdes. Je crains qu'un jour, on les mette vraiment en difficulté. D'autant plus que notre économie va se trouver dans une situation assez effroyable et que je ne suis pas sûr que l'on aura forcément tous les soutiens économiques que l'on avait jusqu'à présent. Donc, c'était une remarque qui n'a rien à voir avec la décision que nous avons prise. On peut se féliciter de la victoire sur le terrain du hand, mais je crois qu'il y a un risque important au niveau de l'attitude des fédérations. Voilà.
Merci. Je vois que Roland Giglio a dit que Sarrebourg est le Guingamp du handball. En tout cas, merci. Je pense que le président Reinhardt sera vite informé et sera heureux de cette décision. Bien, j'ai encore trois informations à vous donner. Tout d'abord, service EasyBus est maintenu.
Il y a deux autres questions, Roland. Oui. Jean-Jacques Rebel, alors c'est peut-être une question à répondre après. Jean-Jacques Rebel qui pose la question sur la réouverture des déchetteries, à savoir s'il est envisagé.
Alors, je vais vous dire de quoi je vais parler. Je vais encore parler de EasyBus et je vais vous parler des déchetteries. Voilà. Donc, là-dessus, vous aurez
une dernière réponse. Et le dernier point, c'est M. Wendling qui souhaiterait savoir pourquoi l'opération Agneau de Pâques n'est pas allée au bout.
Alors, je vais parler aussi de ça. C'est vrai, je l'avais mis et je n'ai pas. Mais je parle de ça, bien entendu. Le soutien aux soignants et voilà. C'est bien de me le rappeler, j'avais sauté la page. On n'est pas dans une situation normale. Bien oui, pour EasyBus, comme je disais, le service, il n'a jamais arrêté parce que il fait partie des services indispensables pendant cette période. Il a été réduit à ma demande, naturellement, d'une première fois il y a 10 jours, et là nous allons, à partir de la semaine prochaine, remettre encore une fois un peu une réduction. En fait, on va tourner à partir de la semaine prochaine comme on tourne en plein été. Mais il faut bien savoir qu'on a des personnes qui doivent se déplacer pour aller au travail, et notamment les soignants. Donc, on a une nouvelle clientèle qui sont les soignants. On est obligé de prendre des grands bus prioritairement, même s'il y a moins de monde à bord, mais c'est surtout pour que les gens puissent respecter les distances de sécurité, donc être au moins à 2 mètres. Sachez que l'ensemble des matériels sont nettoyés après chaque repos, etc. Donc, 2-3 fois par jour, les poignées de porte, etc., tout est nettoyé et désinfecté. Donc voilà. Derrière, j'ai vu d'ailleurs hier une intervention du GART, donc c'est le groupement des opérateurs de transport, qui demande au ministre. Il faut savoir que nous sommes également nous sommes alimentés, notre budget il reçoit les aides des entreprises à travers le versement transport. Or, aujourd'hui, comme l'État a décidé de suspendre toutes les charges sociales et les impôts et tout, eh bien, le versement transport en fait partie. Donc, aujourd'hui, pour les mois confinés, les mois où les activités ne tournent pas, eh bien, les entreprises de plus de 11 salariés ne versent plus le versement transport, le versement mobilité maintenant, et donc nous ne le percevons plus. Et ils ont donc demandé à ce que, assez rapidement, l'État compense cela. Alors, il y a eu l'État apparemment a admis qu'il faut apporter 60% des revenus en permanence. Nous aurons sans doute, à la sortie de cette période, bien sûr, à revoir notre prestataire, notre délégataire, pour voir un peu avec lui, les conditions de notre délégation de service public. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point?
Je n'ai pas d'autres questions.
Je réponds tout de suite aux déchetteries. Alors, j'ai demandé il y a 3 jours, j'ai proposé à Camille Ziger, président du PETR et au service déchets, de penser à une ouverture progressive des déchetteries. Finalement, j'ai un peu devancé un courrier du préfet qui nous arrivait hier, où le préfet, il demandait à ce que, bien sûr, la collecte, la gestion des déchets qui relève des éléments, des services sanitaires indispensables, puissent reprendre un peu la normalité. Il faut savoir que sur notre territoire, eh bien, du PETR, hein, donc Phalsbourg compris, eh bien, le tri, et enfin les déchets bien sûr sont collectés, mais le tri est collecté de la même façon qu'avant, sauf sur la ville de Phalsbourg, puisque le centre de tri dont dépend la ville de Phalsbourg, lui, est fermé. Nous, Dieu-Loire, a maintenu son activité, c'est tant mieux pour nous. Néanmoins, les déchetteries étaient fermées parce que, soi-disant, bon, ben, les filières derrière n'existent pas, puisque nous avons une dizaine de filières de valorisation. Alors, sur ma proposition, le pôle déchets, il a commencé à réfléchir, et voilà ce qu'il propose, et nous avons sollicité l'autorisation du préfet, puisque même si le préfet est favorable, sur les attestations de sortie, il n'est pas prévu ce type de déplacement. Donc, il faudrait qu'il y ait une dérogation sur les attestations de sortie. Donc l'idée, c'est d'ouvrir à partir sans doute pas avant le 24 avril, parce qu'il faut que l'entreprise se mette en place, il faut qu'elle équipe les agents, etc. Il faut que le transporteur puisse également s'organiser. Nous ouvrirons 3 déchetteries, les déchetteries de Sarrebourg, de Mittelbronn et de Nittin, pour à peu près une couverture géographique cohérente. Et ces 3 déchetteries seraient ouvertes les lundis, les mercredis et les vendredis de chaque semaine. Les 3 en même temps, avec chaque fois l'admission de 2 personnes, de 2, voilà. Les bennes seraient bien entendu un peu distendues, voilà, géographiquement, etc. Et il n'y aurait que deux personnes qui usagées qui pourraient venir, en sachant qu'on se limitera pour l'instant aux déchets verts et aux cartons. C'est des situations qu'on maîtrise parfaitement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ensuite élargir rapidement le bois, etc., dès que les filières se mettront en route. Par ailleurs, parce que moi j'ai quand même la crainte qu'on ait un peu beaucoup de monde au portail, si jamais on voit qu'il y a des débordements, eh bien on ferme et on travaillera sur réservation, qui n'est pas simple, mais on travaillera uniquement sur réservation. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les déchetteries, et nous allons le faire savoir par un communiqué de presse et sur les réseaux, et sur le site bien sûr du pôle déchets.
2 remarques sur les déchetteries. Zénon Misula qui dit que c'est génial pour les déchetteries. Et enfin, Jean-Luc Hubert qui pose la question, et pour le secteur de Fénétrange.
Sarrebourg. Oui, non, mais pour l'instant, on va voir. C'est pas nous qui avons le personnel, hein, c'est Citraval qui doivent mettre. Nous n'avons pas Emmaüs en ce moment, donc il n'y a que Citraval. Et il faut renforcer, il faut une personne à l'entrée et 2 personnes sur le haut de quai pour faire un peu la police. Donc, ça fait beaucoup de monde, alors que d'habitude, on est ouvert sur des sites différents. Alternativement, là, on ouvre d'emblée à chaque moment 3 déchetteries. Bon, j'en parle au pôle déchets, je ne ferme pas la réponse.
Roland, Camille, oui. Juste une précision complémentaire à tout ce que tu as dit. A priori, on arrêterait l'ouverture au 24, au vendredi 24 avril.
C'est ça, je l'ai dit.
Ah, tu l'as dit? Ah, bah, excuse-moi, autant pour moi. Mais c'était entre le 24 et le 27 et on arrête le 24.
Et le 24.
OK. Non, mais on va regarder.
Il faut maintenant qu'on ait l'autorisation du préfet, parce que le préfet, dans sa lettre, il parle surtout de déchetteries qui sont liées à l'alimentation, par exemple déchets verts, d'usines de méthanisation, etc. Ce n'est pas forcément notre cas. Nous, on a une plateforme de compostage. Mais c'est aussi lié maintenant aux autorisations de sortie par le document attestation.
Bien. Donc ça, ça a été…
Ça a été demandé, oui, oui.
Oui, et on a eu le retour. Hein. Le retour est positif. Hein. Le retour est positif. Effectivement. Voilà. Et les personnes auront à cocher en fait la case concernant les déplacements liés aux approvisionnements alimentaires.
D'accord. Ah ben oui.
Tout ça va être expliqué. Tout ça va être expliqué.
Ils vont se nourrir aux déchetteries. Alors bien entendu, là aussi, il faut de la discipline, etc. Mais au moins, ça va apporter une réponse. Mais ça ne va pas malheureusement sans doute freiner les incivilités. Ce matin encore, j'ai vu nos équipes du pôle déchets là qui sont en train de tourner. Ils avaient fait 2 points d'apport volontaire, donc en vêtements et en verre. Ils avaient rempli déjà la remorque. Alors, oui.
Roland, tu m'entends?
Oui, Denis.
Oui, je pense que l'accès va être ingérable à la déchetterie de Sarrebourg, rue de Hof et venant de Sarrebourg. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Il va y avoir, je suis sûr, 100 voitures qui vont arriver à l'ouverture. Donc, j'avais proposé, entre autres, à Yves Tuche, qu'on mette justement l'accès sur rendez-vous. Le premier jour, je ne sais pas si tu imagines, il va y avoir 100 voitures là, qui vont arriver. Tout le monde attend, là.
J'entends bien, Denis, j'entends bien. Et j'en suis conscient. Alors, on verra. Et pour moi, la proposition que j'avais faite, c'était sur rendez-vous. Mais le service, et notamment Citraval, voilà, aura peut-être du mal à gérer. Donc, on va faire le test. Dans le communiqué de presse, on va bien expliquer qu'il faudra de la discipline et voilà, un peu de citoyenneté. On a choisi, par exemple, Sarrebourg. L'avantage de Sarrebourg, c'est qu'on a une entrée et une sortie distincte. Donc, il n'y a pas de croisement. Donc, le flux devrait être assez fluide. La route de Rédin, comme les activités industrielles sont arrêtées aux abords, n'est pas très très fréquentée aujourd'hui. Donc les gens peuvent facilement se garer le long de la route et attendre leur tour. ceux qui ne voudront pas, alors on verra bien. Si on voit que les gens, ils vont quitter le lieu, leur attente, et au premier bosquet qu'ils vont boire, décharger leur remorque, à partir de là, on arrête tout et on fait ce rendez-vous. Je suis d'accord. J'avais sensibilisé le pôle déchets là-dessus. D'autres remarques?
Sinon, alors Roland, j'ai encore deux. Ouais, j'ai d'autres remarques. Alors ça concerne toujours un peu le secteur de Fenétrange. Hein. Benoît Piatowski qui dit que le problème des déchets verts, tout le monde allume des feux et les pompiers interviennent beaucoup.
Ah.
Et Robert Rudeau qui réagit sur le secteur de Fribourg, hein, qui du coup est pas couvert pour les déchetteries, quoi.
Alors, on prend, hein, c'est pas la communauté de communes. Moi, j'ai la double casquette, Camille aussi, mais voilà, on va entendre cela. Laissez-nous ouvrir le vendredi, peut-être la semaine suivante, et assez rapidement, on va être mine de rien quand même au 11 mai, où logiquement tout va rouvrir. Hein. Mais ce qu'on veut surtout, c'est éviter que le 11 mai, il y ait vraiment la cata. Donc c'est pour ça qu'en limitant le type, hein, donc les filières d'apport aux seuls déchets verts et au carton, eh bien on pourra peut-être trouver des solutions. Il n'y aura pas les urbains notamment. Voilà. S'il n'y a plus de questions là-dessus, j'en viens au soutien aux soignants et aux éleveurs. Alors tout d'abord les éleveurs, vous avez vu que nous avons assuré une certaine promotion de la consommation d'agneaux de Pâques de nos éleveurs, et je salue Marie-Rose qui a été à la une et qui l'est encore sur les affiches de cette opération, qui a été, je pense, bien appréciée à la fois des personnes concernées, des éleveurs, mais aussi de nos concitoyens qui ont retrouvé le chemin des circuits courts. Mais malheureusement, et Marie-Rose nous le disait, ah voilà notre chère Marie-Rose, Marie-Rose nous le disait, ça n'a pas sauvé quand même le bateau, puisque aujourd'hui, il y a une perte de l'ordre, je ne sais pas, de 40% à peu près de la vente, voire plus, hein, je crois. Mais bien, Pâques n'est pas fini. Donc, c'est une... voilà, et on continue à le soutenir sur les réseaux. Donc, c'est une première opération. Une seconde opération va avoir lieu le 28 avril, que je suis avec Stéphane Herman, le futur maire de Réchicourt, enfin, s'il est élu. Mais c'est également éleveur, membre de la Chambre d'agriculture, vice-président. Il organise avec ses collègues, mais aussi avec tous les producteurs locaux, il projette d'organiser un drive, un grand drive à Sarrebourg, avec bien entendu réservation à la commande, et paye-moi à la commande, et ensuite les personnes, sans doute le 28 avril au soir, entre 17 et 19 heures, viendraient à Sarrebourg, et on leur remplirait automatiquement leur coffre de voiture sans qu'ils aient à sortir. Ils ont testé un peu les produits, etc. Et apparemment, il y a vraiment de l'intérêt vis-à-vis de cela. Il y aurait une vingtaine de producteurs qui seraient affichés dans ce drive, et donc fournisseurs dans ce drive. Et ils avaient d'ailleurs pris contact avec Demeter, donc qui a son magasin de circuits courts de producteurs locaux, pour surtout ne pas empiéter sur ces heures d'ouverture. Donc, mardi après-midi, Demeter est fermé. Donc, voilà, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Donc, voilà une information. Et j'avais dit que la communauté de communes pourra sans doute là aussi apporter son soutien au niveau de la communication et de la promotion de cette opération au niveau de notre site Internet, réseaux sociaux et puis des articles dans la presse. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième, c'est indirectement, c'est à travers le soutien aux soignants. On sait qu'ils ont été, ils sont toujours formidables. Et quand les soignants, mais aussi tous les services de sécurité, mais les soignants, eh bien, nous leur avons déjà rendu hommage à travers 14 panneaux qui ont été implantés aux grands axes routiers de notre territoire et où on donne aussi un message de confinement à nos concitoyens. Mais c'est aussi à une initiative qui a été prise très rapidement par l'abattoir de Sarrebourg, et notamment ce directeur Jean-François Hein, et puis certains restaurateurs de notre territoire qui ont souhaité faire un geste envers le monde des soignants pour Pâques. Et l'idée, c'était d'offrir à tous ces soignants un coffret repas qu'ils emmèneraient chez eux, qu'ils mangeraient lors de leur moment de repos, et bien sûr autour de l'agneau de Pâques. Malheureusement, il a fallu l'autorisation des autorités de l'hôpital, et je parle d'hôpital de Sarrebourg, mais aussi, bien sûr, il est associé l'hôpital d'Abrèche de Niervillers et de Lorquin. Et malheureusement, cet avis favorable est venu très tard, et encore certains délégués communautaires présents là sur la toile en savent quelque chose. Nous étions nombreux à demander à la directrice son feu vert jusqu'à l'obtenir enfin. Donc je me suis encore entretenu hier avec les organisateurs. Cette opération donc va se faire à partir de mercredi de la semaine prochaine. Ça n'empêche pas de manger de l'agneau, bien entendu, même si on a dépassé un peu Pâques. Et se ferait sous la forme d'un coffret qui comprendrait à l'intérieur une entrée confectionnée par les restaurateurs sous forme de verrine. Et puis, il y aurait sous vide de la viande d'agneau qui serait déjà prédécoupée par l'abattoir qui va travailler pendant tout ce week-end. Et puis, un dessert qui serait mis à disposition par les pâtissiers et notamment certains pâtissiers de Sarrebourg. Ce n'est pas neutre parce qu'il y a un grand nombre de personnes intéressées. À l'hôpital de Sarrebourg, il y en a 633. À Bréchuillers 181, Niervillers 98, c'est-à-dire il y a 912, 950 plats complets, enfin coffrets à préparer pour deux personnes. Donc si vous voulez, c'est à peu près 1800 voire 2000 repas qui vont être servis durant trois jours, servis sous forme de drive, c'est-à-dire qu'ils vont être livrés à hauteur des établissements dans un local qui va nous être ou devrait nous être mis à disposition. Et ensuite, c'est à l'hôpital de gérer la distribution de ces coffrets aux personnes donc soignants. Et c'est fait sur trois jours, comme ça, ils pourront, bien entendu, tout le monde, même ceux qui sont en repos, auront droit à leur coffret. Donc voilà un peu cette idée très généreuse de la part de l'abattoir et de quelques restaurateurs qui vont travailler ensemble dans leur cuisine pour préparer notamment les entrées. Dans ce coffret, vous aurez également des recettes appropriées aux viandes qui vont vous être fournies. Donc voilà ce geste. Alors, bien entendu, ce n'est pas neutre, surtout pour des restaurateurs qui aujourd'hui sont totalement fermés et sont dans l'angoisse totale. Donc, ils nous demandent si la communauté de communes pouvait assurer une partie de la logistique, notamment acheter les emballages, etc., et voir un peu contribuer à cette... C'est pas des efforts énormes, hein, c'est du coûtant, en sachant qu'eux-mêmes vont contribuer financièrement sans leur partie, disons, effective de préparer les repas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette initiative que je trouve formidable? Pas de réaction, Philippe?
Non, pas de questions, pas de remarques là-dessus.
Donc, c'est à partir de mercredi prochain pour l'ensemble des soignants de ces hôpitaux, donc à savoir 950 soignants, multiplié par deux, puisque c'est chaque fois, alors celui ou celle qui est célibataire, ben, il trouvera bien un compagnon.
Merci, j'ai des remarques qui sont arrivées là.
Voilà.
Alors,
il y a c'est une très bonne initiative.
Voilà, Bernard Simon. Très bonne initiative. Laurent Morse, excellente et belle, très belle initiative. Bonne initiative à soutenir et encourager de Frank Klein. Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant.
Donc, bien entendu, il y aura un peu une communication sur ce geste. Et sachez que il y a les agneaux, je crois qu'il y a une quarantaine de bêtes qui sont nécessaires pour servir cela. Et en fait, c'est InterBev qui est un groupement interprofessionnel du Grand Est des bêtes à viande, hein, dont le directeur est Franck Bellala, que j'ai eu en communication, et qui va fournir, fournir la viande. Voilà, c'est lui qui va payer ça. Dans la viande, il y aura, dans le colis de viande, il y aura aussi quelques merguez, m'a fait dire le directeur de l'abattoir, et il m'a dit que le personnel de l'abattoir viendrait travailler gratuitement, puisqu'ils n'ont pas fermé, hein, ils viendraient travailler gratuitement et avec grand enthousiasme, comme l'enthousiasme de ses soignants. Voilà.
Jean-Pierre Julie rappelle que le CH de Lorquin et Epsolor n'ont pas été cités dans la commande.
Si, j'ai parlé de Lorquin. Mais ce sont les hôpitaux. Hein, donc, on a, il y aura, alors est-ce qu'on pourra faire une opération un peu similaire vis-à-vis des EHPAD, etc. Je ne sais pas. Là, c'est notamment vis-à-vis ceux qui sont vraiment dans, qui ont été dès les premiers jours vraiment dans la difficulté avec tous ces manques de matériel et manques de personnel qu'on décrit depuis longtemps à force de banderoles et qui enfin, voilà, ce petit virus microscopique est si terrible a réussi à ressortir un peu et mettre sur le pied de sur le haut du podium ce personnel si déterminé et si généreux. Bien, s'il n'y a pas de questions.
Alain Marty oui souhaite intervenir.
Oui, Alain.
J'appuie, voilà. Oui, vous m'entendez? Voilà.
Oui,
entends. Sur ce que tu proposes, tout à fait d'accord. Je profite peut-être de l'occasion pour faire un point très rapide sur la situation de l'hôpital. Ça peut intéresser un peu les collègues. C'est bien. Donc, il est bien évident que l'hôpital est mobilisé sur la prise en charge des patients atteints de COVID-19. Aujourd'hui, on est dans une situation plutôt sur le haut du plateau, c'est-à-dire qu'on a toujours des admissions pour des patients atteints de COVID-19, mais on est plutôt dans une situation stabilisée. On a réouvert une réanimation sur Sarrebourg. Aujourd'hui, sur cette réanimation, on a la moitié qui sont des cas de COVID-19, à peu près stabilisés. On a aujourd'hui à l'hôpital une quarantaine de personnes qui sont hospitalisées pour COVID-19 avec une filière qui a été mise en place qui est une filière pour la gériatrie, pour les personnes âgées, puisque c'est un élément qui est bien évidemment important. On a de plus en plus de personnes, les personnes âgées sont plus touchées. On a également des soins de suite qui sont organisés à Niedervillers pour pouvoir satisfaire les demandes. Et l'hospitalisation à domicile est fortement sollicitée, a doublé ses moyens sur Sarrebourg et sur Saverne pour pouvoir suivre à domicile les personnes qui sont malades. Donc on a aujourd'hui une situation qui est à peu près maîtrisée. Au niveau du personnel, une mobilisation importante, et c'est ce que tu viens de dire Roland, nous soutenons l'ensemble de ce personnel. Une vingtaine d'agents ont été atteints par la maladie. Certains ont déjà repris le travail. Donc, ça fait un nombre relativement peu important par rapport à l'ensemble des effectifs que tu as évoqués. Et voilà un petit peu le point que je voulais faire. Et juste une information, nous avons au niveau de la ville de Sarrebourg commandé des surblouses puisqu'on est dans une situation très tendue sur les protections pour intervenir au niveau des patients positifs. Et nous avons reçu cette dotation ce matin. Nous allons la mettre à disposition pour une partie pour l'hôpital, une partie probablement pour les personnels soignants à domicile et également pour les EHPAD qui en auraient besoin. On avait commandé 10 000 surblouses et donc on va assurer la diffusion au cours de ce week-end pour venir en soutien aux personnels qui en ont besoin. Donc voilà la communication que je voulais faire sur l'hôpital. Peut-être dernier point, pour que les choses soient claires aussi, la maternité a été fermée de façon provisoire. J'insiste bien sur le mot provisoire, dans la mesure où l'objectif était de dégager des lits pour avoir plus de place pour des patients infectés du COVID-19, et également assurer une sécurité totale pour les accouchements, avec la difficulté d'avoir un double flux, éventuellement patients infectés, patients non infectés, qui étaient difficiles à mettre en œuvre, et également des problèmes d'effectifs, notamment de réanimation, s'il y avait fallu réanimer un enfant immédiatement après la naissance. Donc on est sur une fermeture provisoire, et il ne sert à rien de vouloir ameuter le landerneau, la maternité réouvrira après l'épisode de COVID-19. Voilà les éléments que je souhaitais communiquer à nos collègues.
Merci Alain. D'autres interventions avant que je ne vous livre mon mot de conclusion?
Oui, il y a Marie-Rose qui remercie, qui réitère ses remerciements au nom des éleveurs. Zénon qui propose d'applaudir tout le personnel soignant et toutes les personnes qui s'investissent.
C'est prévu à la fin. Je demanderai à ce que vous mettez le micro.
Ouais. Martine Frolicher, qu'en est-il des infirmières à domicile? Ouais. C'est une question.
Nous n'avons pas toutes les responsabilités, hein. On verra.
C'est quoi la question? C'est-à-dire les infirmières à
qu'en
domicile.
Qu'en est-il des infirmières à domicile?
C'est-à-dire mais à quel point de vue?
En termes d'équipement ou?
J'ai pas de précision. Elle peut-être intervenir.
Si vous voulez, sur le sujet, en termes d'équipement, vous m'entendez là, oui?
Oui.
En termes d'équipement, je pense que les personnels soignants aujourd'hui ont des dotations en masques qui semblent assurées par l'ARS et qui semblent suffisantes. J'ai fait un point dernièrement avec quelques pharmacies, donc ils ont des dotations pour les personnels soignants qui semblent suffisantes. Les personnels qui interviennent auprès de patients infectés de COVID-19 manquent de protection, c'est-à-dire de surblouse, et donc là, il y a forcément des difficultés d'approvisionnement. Je vais voir avec les pharmacies qui assurent la livraison pour les cabinets médicaux de leur mettre à disposition un certain nombre de surblouses que nous avons commandées. Voilà, si c'était ça la question.
Non, elle vient de me préciser la question. C'est visiblement par rapport au coffret, donc au coffret repas pour les soignants.
Ah voilà, d'accord.
Ah, c'est okay. Pas prévu. Il faut bien savoir que ce n'est pas la communauté de communes qui a pris l'initiative, hein. Je l'ai totalement laissé à Jean-Luc Chéniaud est également dans le coup, hein, il l'est encore, mais c'est bien l'abattoir et les quelques restaurateurs. Et donc voilà, on leur a pas imposé quoi que ce soit, ils ne l'ont pas fait non plus vis-à-vis de nous. Ils ont demandé un peu notre secours pour avoir une oreille attentive et favorable de l'hôpital, et ensuite que l'on puisse, maintenant que les choses se précisent, être présent dans notamment la prise en charge de la partie logistique, matériel, etc. Mais sans plus. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que les choses vont ainsi se poursuivre? On verra. Mais en tout cas, c'est pas de notre. Mais nous les associons bien entendu, nous, à nos remerciements. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, je vais. Philippe, tu peux peut-être enlever le texte que tu mets là. Comme ça, on voit de nouveau plein de monde.
J'enlève le partage, pas de problème. Voilà,
comme ça on voit de nouveau plein de monde. Je vous demanderai à un moment donné je vous demanderai d'applaudir, parce que on applaudira bien entendu nos soignants et tous les autres. Je voulais juste vous dire que je vous remercie de votre participation et surtout de la façon dont ça s'est déroulé. Je trouve que il y a eu vraiment dans la forme et sur le fond, c'était intéressant et vous avez été discipliné. L'intervention à travers le chat est vraiment très dynamique. Et encore une fois, merci donc et félicitations au service informatique. En attendant de nous revoir physiquement, puisque là, on se voit presque tous, peut-être après le 11 mai, eh bien, je vous demanderai bien entendu de prendre soin de vous, parce que nous avons encore besoin de vous. Vos habitants ont besoin de vous. Donc, prenez soin de vous, gardez le moral, mais aussi la santé. Nous le savons bien. Tout ne s'arrêtera pas le 11 mai. Tout ne redeviendra pas comme avant. Brutalement, le monde a changé de visage. Et il s'est brutalement arrêté. Et imaginez, on a même refermé les frontières entre les pays. Cette maladie des temps modernes, elle aura des effets durables sur nos vies, sur la santé de beaucoup d'entre nous, sur, bien sûr, et malheureusement, l'économie, les finances de nos collectivités, vos communes et surtout celles de la communauté de communes, avec la fiscalité professionnelle unique qui sera sans doute pas à la même hauteur l'année prochaine. Finalement, le parasite microscopique, il aura tout de même réussi à nous réapprendre quelque chose, c'est-à-dire à faire peuple, à retrouver certaines valeurs, solidarité, empathie, bienveillance, à reconnaître l'incroyable mobilisation des soignants, des services de sécurité, mais j'y mets aussi les éboueurs, parce qu'ils ont été essentiels de nos services. Et je vous demanderai maintenant d'ouvrir au micro et on va applaudir toutes ces personnes qui ont été si essentielles et auxquelles nous apportons leurs remerciements. Philippe, tu remets les micros. Je voudrais juste citer encore une grande personne, à savoir la reine d'Angleterre. S'il vous plaît.
Parce qu'il y a des questions, les élections.
De nouveau, Philippe. Philippe, je voulais juste terminer vraiment en répétant un peu ce qu'a dit une grande dame, la reine d'Angleterre, qui, dans son discours si émouvant, avait dit que, eh bien, il faudra juste pouvoir se dire et avoir le courage de dire que le jour d'après, s'il y a vraiment un jour d'après, de se dire que nous pouvons être fiers de tous, notamment bien sûr de ce qu'on vient d'applaudir, mais on a réussi à relever ce défi. Donc merci, et comme après chaque réunion, moi je me suis prévu un coup à boire, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais je bois à votre santé, et à bientôt, maintenant vous pouvez quitter la réunion. Bravo à tous, et encore une fois,
à votre santé.
Voilà, certains ont prévu le coup. Moi, je me suis mis un coup.
Bonjour Roland, c'est une belle réunion.